Ce matin, le message que je vais vous donner, c'est quelque chose qui, depuis plusieurs années avec mon épouse, par rapport aussi au travail qu'on fait dans le cadre de l'Église, au sujet de, on va parler de la relation d'aide, c'est de pouvoir œuvrer, aider les gens afin de pouvoir être libres de tout ce qui pourrait nous oppresser. Et le passage de Jean 10, verset 10, est vraiment magnifique. Alors il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Ah, c'est Jésus qui parle. Et il dit, mais moi, il est question de Jésus, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et je trouve cette phrase de Christ, quand il dit, mais moi, je suis venu. Moi, je suis descendu des cieux. Je suis venu pour vous rejoindre. Je suis venu vous donner ma vie. Je suis venu donner ma vie jusqu'à la croix afin que vous, que nous, on ait sa vie et que la vie du Christ, qu'on l'ait en abondance. Amen. Et le mot abondance, si tu regardes dans le texte grec, littéralement, c'est surabondamment. Dans le sens, c'est quelque chose qui nous remplit, mais qui va jusqu'à déborder. C'est pas juste que Jésus, il nous donne sa vie, puis qui remplit simplement nos vases, hein. Mais il veut que la vie qu'il nous donne, qu'elle soit quelque chose qui déborde de nous. Mais en même temps, cette phrase, le sens de la phrase amène une incertitude. On le voit dans le texte grec par rapport dans les temps des verbes qui est donné. Dans le sens, le sens de la phrase amène une incertitude. L'objectif est-ce que nous puissions avoir cette vie en abondance, mais la question, est-ce que vraiment on la vivra? Dans le sens que oui, on a la vie du Christ, mais est-ce qu'on la vit dans l'abondance? Alors, dans le sens que ce que je vais partager ce matin, c'est que oui, c'est OK, on a reçu le Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Mais c'est ici-bas, sur cette terre, comment je la vis, cette vie? Comment est-ce que je vis cette vie et est-ce que je la vis en abondance? On pourrait définir la vie en abondance par deux passages. Dans 3 Jean, verset 2, hein, la troisième lettre de l'épître de Jean au verset 2, l'apôtre, il dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et en fait, ici, on voit que la bénédiction de l'apôtre Jean, quand il parle à l'église, là, dans sa lettre, il dit, mais que tu puisses prospérer à tout égard. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand je parle ici de la bonne santé, bien sûr qu'il y a une réalité au niveau de notre corps physique. On va dire, on n'a plus 20 ans. Alors Eva, elle peut pas encore le dire. Elle est dans la force de l'âge. Mais des fois, l'expression de dire, on n'a plus 20 ans, puis c'est une réalité qu'en fait, à un moment donné, avec l'âge, on n'a plus 20 ans. Et je suis pas en train de dire qu'on devrait être plein de force, même à 80 ans. Il y a une réalité. Mais le sens qui est quand même qu'en fait, à un moment donné, il y a quand même ce désir de pouvoir être en bonne santé comme l'état de notre âme. Et tu ne coules lien, hein, comme un lien entre le corps et notre âme. Est-ce que des fois, le corps ne parle pas de comment va notre cœur? Hein, parce que quand on parle de l'âme, l'état de l'âme, c'est l'état de nos cœurs. Et ici, dans ce passage, il y a tout ce désir à ce que notre âme soit en bonne santé. Ensuite, on pourrait définir encore la bénédiction, cette vie en abondance, dans le psaume 128. Alors, je ne vais pas tout le lire, mais tout le psaume 128 peut être défini comme quelque chose de vivre dans l'abondance de Jésus. Et à la fin, au verset 5 et 6, il dit, Aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem et tu verras tes enfants de tes enfants. Et tout d'un coup, ici, on voit que la bénédiction de Dieu, c'est de jouir de la descendance. Amen. C'est d'être dans la relation familiale où on jouit de la relation de nos enfants et de nos petits-enfants et pourquoi pas arrière-petits-enfants. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut définir la bénédiction. Mais, comme le dit dans le passage de Jean 10:10, est-ce que vraiment on la vivra? Est-ce que vraiment on la vivra? Dans Matthieu 5, verset 17, on connaît Matthieu 5, c'est le début des béatitudes. Dans Matthieu 5, verset 17, où Jésus il dit, ne vous imaginez pas que je suis venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ce passage m'a toujours fortement interpellé et j'ai beaucoup aimé dans le sens qu'il dit, je ne suis pas venu l'abolir, je ne suis pas venu l'annuler. Ça veut dire que si Jésus dit que je ne suis pas venu annuler la loi, ça veut dire que sa loi est toujours en vigueur. Amen. Mais le Christ, il dit, je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu remplir les exigences de la loi. Amen. Il est venu les remplir et les exigences que le Christ a accomplies, eh bien, il veut nous les donner. Amen. Et une des paroles quand on parle de la loi et des prophètes, si on prend les 10 commandements, dans Exode 20, le verset 5, qui ferait partie du 2e commandement, il dit, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Et il dit après, écoutez bien, je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et ici, la loi, elle dit, cette loi qui est toujours en vigueur, mais que le Christ a accompli pour nous, mais elle est toujours en vigueur. Il dit ici que je punis la faute des fils. Non, oui, je punis les fils pour la faute de leur père. Et des fois, on pourrait vivre des choses dans notre vie. Hein. On dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Ah ben la loi, elle est en vigueur et tu subis le péché des pères. Il nous arrive des situations où on subit le péché des pères. Dans Genèse 9, vous savez, quand on parle de la loi de Dieu, le texte nous dit que Jésus-Christ était prévu avant la fondation du monde. La loi de Dieu n'est pas apparue, elle n'a pas existé au mont Sinaï. Non, parce que le trône de Dieu existe de toute éternité. Sa loi et son trône existent de toute éternité. Sa loi est toujours présente. Et dans Genèse 9, les versets 19 à 29, en fait, c'est l'histoire de Noé avec ses fils. Ils ont quitté enfin, il y a eu le déluge. Le déluge s'est arrêté. Et puis, Noé, il a planté une vigne. Et c'est l'histoire où Noé s'est enivré de son vin, et puis que là, il y a toute l'histoire où tout d'un coup, il s'est retrouvé nu. Il était dans sa tente, il n'était pas en dehors de sa tente, il était dans sa tente, et que son fils, Cham, l'a vu, et qu'il a rapporté ça à ses frères. Et le texte, il dit, dans Genèse 9, verset 18, les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japhet. Cham était le père de Canaan. Et c'est Cham qui dénonce la nudité de son père. Et au verset 25, il est dit, suite, c'est Noé qui va dire ça à Cham par rapport à la malédiction, il est dit, alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de tes frères. Et dans le sens parce que son père, Cham, a péché et puis qu'il a humilié son père, dans ce qu'il a vu, puis qu'il a rapporté à ses frères, Noé dit, à cause de ton péché, Canaan, qui est ton fils, il sera maudit. Et on voit que tout d'un coup, Canaan subit, en fait, le péché de son père, Cham. Une autre histoire qui est aussi, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a un peu ébranlé. C'est quelque chose enfin voilà, c'est la faute d'Abraham. Abraham, Genèse 12, le père des croyants. Il y a une famine, il quitte son pays, il quitte la maison de son père, et puis très vite, il y a une famine qui arrive, et dans la famine, il va se trouver en Égypte. Ok, on connaît l'histoire. Et qu'est-ce qu'il va faire avant de rentrer en Égypte? Il dit, ah mince, ma femme, elle est belle. Alléluia. Ma femme, elle est belle. À cause d'elle, on va aller en Égypte. Les Égyptiens vont me tuer. Puis en fait, tout d'un coup, Abraham, il commence de se soucier de sa petite vie. Et il va dire à sa femme, bah, écoute, on va dire que t'es ma sœur. OK? Et puis en fait, le texte, on voit ça dans Genèse 12, les versets 13 et 18. Bref, il dit au Pharaon, ouais, c'est bon, c'est ma sœur. Le Pharaon, il dit, nos problèmes. Du coup, c'est sa sœur. Moi, elle est belle, je la prends. Et puis en fait, Abraham, il a laissé faire parce qu'il avait peur de sa propre pour sa propre vie. En fait, parce qu'il avait peur de sa propre vie, il a menti au Pharaon en disant que c'était sa sœur. En fait, c'était sa femme. Et suite à cette histoire, eh bien, le malheur arrive dans la maison de Pharaon. Et à cause de ce qu'il a pris la femme d'un autre, eh bien, il a commencé d'être malade, le Pharaon. Et au verset 13, enfin, au verset 13, il dit, dis-leur donc que tu es ma sœur afin qu'on me traite bien à cause de toi. Et au verset 18, le Pharaon, il est furieux. Du coup, il comprend quand cette femme qui s'appelle Sarai, qui l'a pris, en fait, c'est pas la sœur d'Abraham, c'est sa femme. Et là, le pharaon, il est fâché, puis il dit, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Et là, le pharaon, il est offusqué, il reprend Sarai, il la donne à Abraham. Et il dit maintenant, le pharaon, il prend Abraham, puis il le jette de son pays, il veille même qu'il parte. Mais dans ce mensonge d'Abraham, pendant ce temps qu'il avait dit que Sarai, c'était sa sœur et pas sa femme, eh bien, à cause de cela, le pharaon était bienveillant avec Abraham. Et Abraham, en Égypte, s'enrichit. Il s'enrichit. Il est même dit au moment où le pharaon prend Abraham puis qu'il le rejette de son pays en disant, moi, je veux plus que tu sois chez moi parce qu'à cause de toi, je suis devenu malade. Le texte dit, et le pharaon quand il quitte l'Égypte, pas le pharaon, quand Abraham quitte l'Égypte, il était très riche. Mais écoutez bien, Abraham, il ment au pharaon en Égypte. La loi de Dieu dit, je punis les fils par la faute de leur père. Okay? Dans Genèse 15, Dieu parle à Abraham et le Seigneur y dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans le pays étranger, ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans, 4 générations de 100 ans. La génération, la descendance d'Abraham va se retrouver en Égypte, en esclavage, sous la domination du pharaon, et ils seront pauvres. Pendant ce temps que leur père Abraham a menti et qu'il s'est enrichi sur le dos du pharaon, ben la descendance d'Abraham va se retrouver en Égypte, esclave et pauvre. Et ça, je crois, c'est à cause de la conséquence du péché d'Abraham. Parce que la loi de Dieu, elle dit que Dieu il punit les fils sur la faute des pères. Amen. Autre situation. Dans 2 Samuel 11, c'est le péché d'adultère de David. David, il va pas en guerre, il reste à la maison. Et puis, tout d'un coup, il voit la femme d'Uri. Il voit la femme d'Uri. Bathsheba. Il va vers elle, il couche avec elle, c'est-à-dire il commet l'adultère. Et puis, bref, David était un petit peu quand même confus, parce que dans son cœur, il aime Dieu, puis il connaît Dieu. Il s'est laissé prendre par des pulsions, il a commis l'adultère. Ensuite, Bathsheba, elle vient vers David, elle dit, David, je suis enceinte. Puis David s'est dit, aïe, 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 faut que je trouve une solution pour cacher ma faute, pour cacher mon péché. Mais on peut cacher le péché devant les hommes, mais devant Dieu, pas. Amen. Bref, l'histoire nous dit qu'il fait venir Uri, il lui fait boire un peu d'alcool, hein, il fait un grand repas, il le fait boire d'alcool parce que David, il s'est dit que ça fait tellement longtemps qu'il est en guerre, quand il va rentrer à la maison, je vais le faire boire de l'alcool, il va plus penser de retourner vers les autres, il va rentrer à la maison vers sa femme en pensant qu'il va coucher avec. Et puis là, on pourra dire, ah ben c'est l'enceinte, c'est parce que tu es allé vers ta femme et puis le bébé est du tien. Mais bref, ça s'est pas passé de cette manière. Ça s'est pas passé de cette manière parce que Uri était un homme droit. Vous savez que l'alcool, l'alcool, je suis pas contre boire un verre de vin, mais l'alcool corrompt le caractère. Parce que David a essayé de faire que Uri boive de l'alcool, il a essayé de corrompre ses principes et son caractère pour qu'il puisse aller vers sa femme. Mais Uri était tellement un homme juste et droit, l'alcool n'a pas eu le dessus sur lui. Il n'a jamais couché à la maison. Ensuite, bref, il retourne dans le camp militaire, Uri, puis David continue de se gratter la tête en disant, mais comment je vais faire? Ben là, tu sais, à un moment donné, quand tu es pris dans un engrenage, tu deviens bête dans ta manière de penser. Et puis c'est là que David, il dit, ben, on va dire que je vais dire à Joab de mettre Uri au front, et puis il se fera tuer par l'adversaire. Et puis moi, comme un grand héros, je prendrai sa femme en mariage, et puis on essaiera de cacher les choses de cette manière. Et bien sûr, voilà, Uri. Vous connaissez l'histoire, est au front, il se fait tuer par l'adversaire et David prend Bathsheba comme femme. Mais l'Éternel intervient à travers le prophète. L'Éternel intervient à travers le prophète et je trouve vraiment intéressant parce que quand il parle dans 2 Samuel 12, 15, il est dit qu'en fait, le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba, la veuve d'Uri, qu'avait donné David. Et c'est intéressant, le texte, il précise vraiment, il dit pas, ah, c'est la femme de David. Non, c'est la veuve d'Uri. Mais ici, en fait, l'enfant qu'elle a porté puis qu'elle a mis au monde, hein, qui est le père de l'enfant de David, eh bien, il dit que l'Éternel frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba. Ici, l'enfant, c'est pas un enfant légitime, hein. C'est un enfant hors mariage. C'est un enfant qui est conçu dans l'adultère. Et de nouveau, je rappelle que la loi de Dieu dit que je punis les fils de la faute des pères. Et le fait, le père ici, c'est David. Du coup, ce fils vient, est issu d'un acte adultère. Et le texte dit, parce que Dieu, il agit selon la loi, il agit selon sa loi, eh bien il dit que l'Éternel frappa d'une maladie l'enfant, la veuve d'Uri, et cet enfant mourut. Ça veut dire que ici cet enfant, il n'est pas, il a subi la malédiction et la faute de son père, parce que dans le sens qu'il a, il n'était pas dans la bénédiction du psaume 128. Il n'est pas dans la bénédiction du psaume 128. David a demandé pardon à Dieu pour son péché. Et Dieu lui a pardonné. Mais la conséquence de son péché a eu un résultat sur sa descendance. Si on regarde même la vie de David, la généalogie de la vie de David, Rahab la prostituée, Ruth la Moabite, la Moabite, d'où vient les mots, la Moabite, c'est Lot et ses filles. C'est une génération qui est issue de l'inceste. Ensuite, quand on parle de David dans le psaume 50-51, au moment où le prophète Nathan vient lui révéler son péché, David dit dans ce passage, je suis né dans le péché. Bien sûr que nous sommes tous pécheurs, puis on est OK par rapport à ça. Mais pourquoi David, à mon avis, il dit, je suis né dans le péché? Parce qu'il est issu lui-même, je pense, du fruit de l'adultère. Et ce qui est terrible ici, c'est que David lui-même est issu du fruit de l'adultère et il reproduit le même péché. C'est comme une malédiction qui se donne de père en fils. C'est comme une malédiction qui se manifeste. Vous savez, même David n'était pas dans la bénédiction du psaume 128. Quand le texte il dit qu'on va jouir de la descendance, hein, le psaume 128, il dit tu verras les enfants de tes enfants. Hein, tu verras les enfants de tes enfants. Comment David a fini sa vie? Il était seul. Plus un fils, plus une fille. Il était seul. Et parce que c'était le roi d'Israël, dans sa vieillesse, les gens qui étaient autour de lui sont allés chercher une jeune fille vierge pour venir s'occuper de lui. Et le texte précise bien qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle. Mais il était tellement, il était pas dans la bénédiction. Il n'était pas dans la bénédiction. Il a fini sa vie seul, David. Et en fait, ce que je suis en train de partager ce matin, c'est que nous devons comprendre que oui, nous avons accepté le Christ dans nos vies. Oui, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Mais est-ce que réellement tu vis cette vie en abondance? Il y a des situations dans nos vies qu'on subit le péché de nos pères. Je prends des exemples, enfin, pour essayer d'ouvrir et de comprendre. Il y a des situations dans les familles où les enfants, ils chopent la même maladie que leurs parents ou que le grand-père. Ou bien, tout d'un coup, il y a des situations dans des familles où tout d'un coup, il y a des suicides. Et puis, tout d'un coup, peut-être pas la génération directe, mais ça saute une génération. Puis, tout d'un coup, tac, t'apprends aussi qu'il y a aussi un suicide. En fait, c'est toutes des situations où, à un moment donné, il y a un péché. Et puis ce péché n'est pas traité. Je donne un autre exemple, quelque chose que j'ai entendu. On parle des fois des secrets de famille. Les secrets de famille. Une personne est en relation avec un homme, elle tombe enceinte. Le fait qu'elle est enceinte, une immense pression vient sur elle. On l'oblige à avorter. La personne avorte. Ensuite, la relation avec cet homme, elle se casse. Entre-temps, elle rencontre Jésus, elle se marie et elle a beaucoup d'enfants. Elle a l'impression que tout va bien. Sa fille aînée, enfin aînée dans le sens, c'était peut-être la deuxième ou la troisième, mais c'était la fille aînée, elle se marie. Elle tombe enceinte, elle fait une fausse couche. Au moment où cette situation arrive, on parle de fausse couche, on ne parle même pas d'avortement. Hein. Ça suscite dans le cœur de la mère, ça éveille en elle tout l'avortement. Et que personne dans la famille savait. Ça l'angoisse tellement qu'elle confesse ce qu'elle a vécu à sa fille. Et sa fille apprend la vérité sur sa mère. À l'âge de 20 ans et des poussières. En fait, c'est de pouvoir expliquer qu'en fait, à un moment donné, il y a des situations dans nos vies qui nous arrivent et qui n'est pas le fruit du hasard. Parce que moi, je crois que en Jésus, le hasard n'existe pas. Je crois que en Jésus, le hasard n'existe pas. Et c'est là que nous devons travailler sur nous-mêmes. Et des fois, nous luttons avec des situations dans nos vies, de dire, mais pourquoi je lutte avec ça? Ah ben c'est peut-être parce qu'il y a un péché des pères qu'il faut venir traiter afin que nous puissions être libres. Amen. Libres. Et de pouvoir vivre une vie à la lumière, vivre une vie à la vérité, de pouvoir convoquer ses enfants et de pouvoir peut-être leur partager quelque chose que je tiens secret, afin que nous puissions mettre en lumière, plaider coupable devant Dieu et être libérés de cette malédiction. Parce que cette malédiction de ce que je suis en train de partager, eh bien, en Christ, on peut la briser. Amen. En Christ, nous pouvons la briser. Pourquoi David n'a pas pu vivre la bénédiction du psaume 128? Parce que je crois que le Christ n'avait pas encore été révélé. Mais aujourd'hui, pour nous, le Christ nous est révélé et nous pouvons plaider coupable et être brisés de l'héritage de nos pères, afin que nous puissions vivre dans la plénitude. L'histoire de Daniel, et je terminerai avec ça, l'histoire de Daniel est aussi intéressante. Daniel, on le connaît. Hein, la fosse aux lions, les trois amis de Daniel qui sont dans la fournaise et tout. C'était des hommes droits. C'était des hommes justes. Ils craignaient l'Éternel. Mais tout d'un coup, ces hommes justes et qui craignent l'Éternel se trouvent à Babylone, en exil. Et dans Daniel 9, il est dit que Daniel lit le prophète Jérémie, et en lisant le prophète Jérémie, il comprend pourquoi il est en exil. Il comprend, c'est parce que c'est à cause du péché de ses pères, à cause de l'idolâtrie qu'ils ont fait, que toute la nation s'est trouvée en exil. Et qu'est-ce que Daniel fait? Eh bien, Daniel, quand il comprend qu'il est en exil à cause des péchés de ses pères, eh bien, au verset Daniel 9, verset 20, je continuais de prier, de reconnaître mon péché et celui d'Israël, mon peuple. C'est-à-dire que tout d'un coup, Daniel, le juste, confesse, et tout d'un coup, le péché de ses pères devient son péché. Pourtant, lui, il est toujours juste. Et il commence de se repentir de son péché et du péché de ses pères. Et je crois que ça, c'est la clé pour nos vies, de pouvoir nous libérer de situations où c'est le péché de nos pères, de pouvoir reconnaître, dire, oh Seigneur, oui, j'ai péché moi et mes pères. J'ai péché moi et mes ancêtres. Je plaide coupable. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, brise cette malédiction, qu'elle ne retourne pas dans la génération qui revient. Et la clé pour pouvoir être délivré et être restauré, c'est de pouvoir plaider coupable. Le péché de nos pères devient notre péché et plaider coupable. Ensuite, je crois aussi une chose, parce qu'avant, je parlais de secrets de famille, où il y a des situations dans les familles. On parle d'avortement, on parle d'agression sexuelle, on parle de péché, de tromperie, de vol, de mensonge. Vous savez, au sujet du mensonge, on voit Abraham parce qu'il a eu peur et il a menti. Eh bien, on serait étonné, nous, si on demanderait au Saint-Esprit qu'il fasse un petit check-up de nous, toutes les fois où nous avons eu peur et que nous avons menti. Puis qu'aujourd'hui, on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'on s'est dit, on a peur, alors on a menti pour une situation quelconque. Puis après, on s'est sorti. Puis, oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, je m'en suis sorti. Ouais, mais tu as quand même menti. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est pas Dieu, hein. C'est pas l'Éternel, hein. Le père du mensonge, c'est le diable. En tout temps, tu diras la vérité. Au profil de ta vie. Abraham devait dire la vérité au Pharaon, au profil d'être lui maltraité. Mais s'il avait dit la vérité, Qu'est-ce qui se serait passé pour Abraham, vous pensez? Je crois que tu crois que l'Éternel aurait regardé comme ça? Ben non! Il serait venu à son secours. Il est bien tout puissant pour venir protéger Abraham. Amen. Et des fois, le mensonge, il est bien plus proche de notre bouche qu'on peut l'imaginer. Et des fois, suite à ces situations, il y a des secrets de famille et les gens meurent avec ce secret. Mais la conséquence sur les fils, elle demeure. Mais c'est là qu'on a un merveilleux Saint-Esprit qui peut venir mettre en lumière des situations dans ta vie pour dire, mais Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi je bataille tellement avec ceci? Pourquoi je bataille tellement avec cela? Pourquoi il nous arrive telle et telle chose dans la famille? Eh bien, viens, David, ou viens, vous, dans votre intimité avec Dieu, où tout coup le Saint-Esprit, il révèle des situations et des choses, afin que tu puisses plaider coupable devant Dieu et en être délivré. Amen.
Amen.
Parce qu'il veut que nous ayons une vie en abondance. Et ce sujet que je parle ce matin avec vous, eh bien, on aime, ah mais c'est bon, Dieu m'a pardonné, tout va bien, tout va bien, tout va bien, arrête, tout va bien, c'est bon. Non, affronte la réalité. Affrontons les situations. Demandons à Dieu qui nous éclaire. Demandons au Saint-Esprit qui met en lumière des situations afin que nous puissions venir et briser la malédiction des pères. Parce que je crois une chose, c'est qu'il y a des combats que nous vivons que nous ne devons pas vivre. Il y a des combats que nous vivons que nous ne devons pas vivre. C'est la conséquence du péché, mais pas du tien. Celui de tes pères. Et on a besoin d'être délivré de ces choses. Mais pour être délivré, il faut affronter la réalité de nos vies. Jésus ne vient pas pour condamner, mais il vient pour sauver. J'aime beaucoup le passage de Jean 3, 16, mais j'aime le verset 17. On connaît Jean 3, 16, hein? Mais le verset 17, il est magnifique. Où il dit, je suis, le Père ne m'a pas envoyé pour condamner le monde. Il m'a envoyé pour le sauver. Quand je parle de cela, c'est pas pour mettre un poids sur un problème. Non, c'est de pouvoir mettre en lumière une situation afin que Jésus puisse nous sauver et recevoir cette vie en abondance. Amen. Alléluia. Je vais finir par la prière. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que nous te reconnaissons comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Tu es descendu du ciel, tu as quitté ta gloire, tu as revêtu un corps comme le nôtre. Mais nous te louons, nous te glorifions parce que toi, tu as vécu une vie parfaite, juste. Merci Seigneur parce que toi, tu es venu pour remplir toutes les exigences de la loi de Dieu. Et j'aimerais te louer pour la vie que tu nous donnes, cet accomplissement que nous pouvons vivre. Et je vis et je prie pour mes frères et sœurs ici présents, que face à des situations, eh bien, que tu puisses mettre en lumière, révéler peut-être le péché des pères, afin que chacun puisse être libre, libre de la malédiction du péché. À toi soit toute la gloire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.